Bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma de la province de Québec. À chaque semaine, moi-même, Yannick Belzile.
Et moi, Alex Rose.
On discute des vues devant l'éternel et habituellement, nos épisodes ils ont une thématique. On regarde un film qui est lié à celui de la semaine précédente, mais là, on fait un de nos épisodes spéciaux pour une nouvelle sortie. On vient tout juste d'aller voir le nouveau film de Marvel Studios, The Eternals de Chloé Zhao.
En fait, c'est seulement Eternals. Eternals.
Seulement Eternals de Chloé Zhao, qu'elle a coécrit avec Ryan Firpo et Patrick Burley et Matthew K. Firpo. C'est ça, je crois que c'est le 26e ou le 27e film de Marvel Studios. Et aussi, c'est attendu parce que, les films ont été comme un peu retardé à cause de la pandémie, fait que là, on en voit pas mal tout de même de suite. J'ai l'impression, il n'y a pas si longtemps, on était dehors alors qu'il faisait encore beau à parler de Shang-Chi. mais une des raisons aussi pourquoi il y a un certain hype ou intérêt de ce film-là, ou du moins, il y a tout le temps du hype pour les films de Marvel, mais là, ce qui fait partie de la promotion, puis genre du point de presse, puis de ce que le monde parle en attendant, parce que le monde va parler que ces films-là sortent anyways, vu que ce sont comme le moteur principal de jasage de nerd de cinéma en ligne, c'est un film qui est réalisé par Chloé Zhao, qui a récemment gagné un Oscar.
Exact.
Alors, c'est le premier film comme dirigé par une personne oscarisée de Marvel. Et ça fait partie, gros, de la patente que ça va être potentiellement un film plus... On dirait ça fait partie de... Ça va avoir plus d'étoffe, peut-être, que ce que les autres films sont. Ça va être aussi différent. Et avant qu'on se lance là-dedans, à quel point c'est différent ou non, juste faire un petit résumé. Les Eternals, qui sont des créations originales de Jack Kirby, qui est un des architectes de l'univers de Marvel, qui est un auteur, illustrateur, qui est véritablement un des pères de tout l'univers de Marvel. La plupart des personnages qu'on a vus dans les films et qui ont explosé à travers la pop culture, il y a son empreinte avec ces personnages-là, surtout avec Stan Lee. Souvent, la paternité de leur rapport à ces personnages-là est chaudement contesté, dépendant de quel genre de nerd que t'es dans les comic books. Mais bref, une affaire avec The Eternals, c'est que ça, c'est une création qui est entièrement de Jack Kirby. Stan Lee n'est pas impliqué vraiment là-dedans. Et c'est un groupe de personnages qui sont immortels, qui vivent en secret sur la planète Terre, parmi les humains. Et il y a aussi une race de monstrueuse qui s'appelle les Deviants, qui sont justement des genres de monstres qui existent, et les Eternals se battent contre eux et les empêchent de faire du mal à l'humanité. Tout ça sous les ordres des Celestials, qui sont des créatures divines, des dieux de l'espace, qui sont gigantesques. Qui ont créé les Eternals et les Deviants et qui surveillent leur existence et qui ont des desseins pour l'humanité et leur évolution. Ça, c'est at large le concept des Eternals. Ce qu'on a dans le film, c'est plus ou moins ça, mais on suit Circe, qui est une des Eternals, qui est jouée par Gemma Chan, qui, elle, ça fait 7000 ans qu'elle vit avec ses amis Eternals sur Terre. On les a vus prendre part à des conflits, pas prendre part à des conflits, juste pour empêcher les Deviants de tuer l'humanité. Et ils se sont rassemblés, les Eternals, qu'il y a plein de gens, dont justement, tu sais, Angelina Jolie joue Tena. Fait que, tu sais, le fait qu'Angelina Jolie soit dans un film de Marvel, c'est tout de même aussi notoire.
Puis c'est weird parce qu'elle est pas plus ou moins dans le film que les autres.
Ouais.
C'est pas un personnage de soutien. C'est un des personnages. Mais tu sais, mettons 8 personnages principaux, là, mettons. Fait que moi, je pensais plus qu'elle allait avoir une fonction comme le personnage de Salma Hayek, tu sais, comme un genre de doyenne quelconque, là.
Ouais.
Mais c'est pas ça. C'est une des personnages du film, c'est Angelina Jolie.
Ouais, Salma Hayek joue Ajak, qui est comme la doyenne, la prêtresse des Eternals. On a Richard Madden, que la plupart des gens vont se souvenir de lui de Game of Thrones qui joue Icaris, qui est comme le Eternal principal dans les comics, mais qui est comme le second joueur dans celui-ci. Mm-hmm. On a Kumail Nanjiani, l'humoriste, acteur, aussi scénariste, qui s'est mis super ripped mm-hmm. pour le rôle, qui joue Kingo. On a bien sûr une des étoiles des voyeurs de vue, Don Lee,
oui.
A.K.A. Madong Seok, qui joue Gilgamesh, qui punch des gros monstres.
Ouais, c'est ça. Lui, son pouvoir, c'est qu'il est fort. Puis, à un moment donné, on le voit plier un poêlon en fonte en deux.
Ça qui est tout de même très cool.
C'est quand même un bon mot.
Et bien sûr, je vous entends à la maison. Yannick, est-ce que tous les autres Eternals que je connais et que j'aime depuis que je suis jeune sont là? Alors, je vais vous le dire. Sprite est là, Mokari est là, Druig est là, toute la bande
Fastos.
Est là. Fastos, oui, by Baron Tyree Henry. Tous vos préférés de votre jeunesse sont là. Et on les voit se séparer et s'unir à travers l'histoire de l'humanité pour se réunir à nouveau à notre époque normale alors que la Terre est secouée par des tremblements de terre. Ce cataclysme-là est avant-coureur de la naissance d'un nouveau Celestial, d'un nouveau dieu spatial, et c'est là que les Eternals doivent se rassembler pour essayer de sauver l'humanité de ce qui va se produire, même si les Deviants sont en chemin. Puis, c'est plus ou moins ça qui se passe dans The Eternals, sans rentrer dans les spoilers, mais il n'y a pas vraiment de spoilers tant que ça.
Le film est basé sur la même idée que plein d'autres films de super-héros, c'est-à-dire est-ce que. Tu sais, qu'est-ce que ça va coûter de sauver l'humanité éthiquement et moralement? Est-ce que, tu sais, sacrifier des gens pour en sauver d'autres, ça vaut la peine, et ainsi de suite? Et est-ce que. Puis il y a aussi comme toute une notion mythologique un peu religieuse, là, où tu sais, plus. Pas spirituelle, mais tu sais, plus dans les mythes, là, dans le sens
ouais.
que, tu sais, comme. Parce que c'est un peu pêle-mêle, tu sais, t'as des figures. De plusieurs religions puis de plusieurs
théologies
et mythes et tout ça. Fait que c'est ça. Y a beaucoup, pour un film de super-héros, il y a beaucoup de monde qui se crie par la tête à propos de la morale et l'éthique. Là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le nœud de l'affaire, c'est de rassembler cette famille-là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas faire. Et moi, j'ai tu sais, un peu comme Shang-Chi, tu sais, les Eternals, je les connais pas tant que ça. J'ai lu une bonne partie de la run originale de Jack Kirby sur Marvel Unlimited. Puis, une affaire que je pense qui a rapport au film, c'est que les Eternals sont comme vagues, sont des créations mineures de Jack Kirby. Mm-hmm. Quand tu as créé Captain America, Hulk, les X-Men originaux, tu sais, tous ces personnages-là qui, aussitôt qu'ils ont été créés, ont pratiquement été publiés sans arrêt depuis les années 60. Mm-hmm. Des affaires comme les Eternals qui ont existé dans leur première run pendant 17 numéros, puis qui sont comme ressuscités à chaque 10 ans pour essayer de faire quelque chose avec, mm-hmm. puis ça colle jamais. Ben, il y a comme juste un certain statut qui vient avec ça.
Ouais.
C'est juste comme tout le monde comme « Ah, mais c'est une affaire de Jack Kirby. T'sais, faut qu'on l'unlock, faut qu'on le déborde puis qu'on trouve comment vraiment le faire fleurir. Mm-hmm. » Mais ça n'arrive jamais parce que c'est une de ces créations qui marche juste moins bien. Puis, je te dirais que c'est... Le film est comme ça.
Ouais.
c'est un peu ça que je pense du film. J'ai trouvé ça... tout de même pas mal plate. Tu sais, il n'y a rien de... On dirait qu'une affaire que j'aime, c'est que récemment, dans les films de Marvel, une affaire qui me gosse, c'est le genre de l'humour paresseux, de jokey-joke, de demi-joke de sitcom mm-hmm. qui aime ça plugger par-dessus de l'action. Ça, au moins, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup là-dedans, ou du moins livré de façon moins crowbar. Fait que ça me plu, mais sinon... À part le fait que ce soit visuellement plus nice aussi que la plupart des films de Marvel, j'ai juste trouvé ça plate. Si Jack Kirby n'était pas capable de faire chanter ça pendant longtemps dans les années 70, comme ça va, la pâte punk pas, elle lève pas pour un film non plus.
Ouais, exact. Je pense que le problème est pas... Tu sais, à ce moment-là, le discours sur Twitter là, des gens qui sont des fans invétérés de Marvel, c'est que n'importe qui aime pas Eternals est raciste et sexiste et veut détruire le film qui a le plus de représentation dans l'histoire de Marvel. Cette partie-là, c'est vrai. C'est le film qui a le plus de représentation. Tu sais, c'est... Veux pas, il y a 40 personnages. Fait, tu sais, c'est plus facile de manœuvrer ça. Mais je pense que le problème fondamental est même pas... C'est pas de la faute à Chloé Zhao. C'est pas de la faute aux acteurs. C'est ostensiblement pas de la faute du scénario. C'est que ce que ça trame, tu sais, ce que c'est, les Eternals, ça a une limite fondamentale et absolu qui, tu sais, je sais pas comment dire, ça marcherait peut-être comme émission de TV si tu pouvais, tu sais, comme... Ben parce que, mettons, je vais y aller comme ça, tu sais, les Avengers aussi, il y a full de personnages, mais les Avengers ont presque tout eu leur film avant. Là, on se fait barouetter 40, ou, tu sais, 10, je sais pas, 8 personnages principaux,
ouais,
un après l'autre, dans plusieurs timelines différents. Tu sais, voici il y a 7000 ans, voici telle place, voici, ça arrête pas de changer. Puis on les connaît pas vraiment, ces personnages-là. Donc le film est forcé de faire un peu du. De couper des coins, là, des coins ronds, pis tout ça. Puis j'ai juste l'impression que c'est pas. C'est comme pas possible que ce film-là soit pas plate. C'est un problème. Puis moi, je connais pas les Eternals en comic book, mais je comprends. Tu sais, je peux pas imaginer une meilleure version de ce film-là non plus, même si j'ai pas trouvé ça bon.
Ben, tu sais, là, j'essayais de penser, parce que aussi Chloé Zhao, son prochain film qu'elle va faire, elle est supposée faire Dracula pour Blumhouse, tu sais. Puis elle disait, ah, moi, ça vient vraiment me chercher comme l'idée d'un être immortel, puis tu sais, qui vit pour toujours, des affaires comme ça. Fait que j'étais comme, ah ouais, là, ça veut dire... Quand j'avais entendu ça, je me suis dit, ça veut dire qu'elle a... Peut-être trouver quelque chose en faisant Eternals, mais une affaire vraiment intéressante. Mais, tu sais, j'essaie de penser, mettons, des films sur des êtres immortels qui sont comme le fun puis qui racontent bien ces chronologies-là. Puis vite de même, on dirait que le seul qui me vient à l'esprit, là, puis ça fait trop longtemps que je l'ai vu, c'est Entretien avec un vampire. Mais c'est une personne qui raconte son histoire à une autre. Fait que déjà là, ça, c'est immédiat puis c'est clean. Puis c'est ça, fait que là, tu peux passer à travers plein d'affaires de vie de de cette personne-là. Mais là, on a comme un peu un film choral de toutes, des personnages immortels qui... c'est ça, ils font comme juste exister. Tu sais, dans les comics, encore là, tu sais, la façon que Jack Kirby il fait ses comics, c'est très opératique, puis c'est très... Tout le monde crie tout le temps. Il crie... la mythologie, puis c'est le underworld rencontre le monde du paradis, puis blablabla, puis tu sais... Il y a une scène dans un des comics que j'ai lu hier soir qui était vraiment bon, c'est il y a un agent de S.H.I.E.L.D. à un moment donné qui voit comme un Celestial, puis il décide comme... Il va le faire exploser parce que... Puis là, tu vois que c'est l'humanité deal comme ça avec ça. Mais tout ça représenté en une cause, t'as un agent secret avec une bombe miniature nucléaire dans les mains, puis il dit... Dieu de l'espace ou personnage de mythe, cette bombe nucléaire va nous montrer c'est quoi la différence. Tu sais, il y a vraiment une, tu sais, c'est de la poésie super déclarative. Puis des personnages comme ça, c'est juste de même que tu peux vraiment le faire, puis je sais pas si tu peux faire ça en live action.
Ouais, ben c'est ça. Puis parce que justement les personnages sont à la fois beaucoup trop humains pour leur statut d'immortel protecteur de la galaxie, puis tout. Mais aussi pas très... Tu sais, c'est des personnages pas très recherchés. Tu parles d'Entrevue avec un vampire, ça me fait penser à Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, qui est un film de vampire aussi. Puis eux autres, dans ça aussi, sont immortels. Puis eux autres, ce qui arrive, c'est qu'ils s'emmerdent, ils sont écœurés, parce qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent voyager partout. Ils ont tout vu, ils ont tout connu, ils ont tout lu les livres. Fait qu'à un moment donné, ils sont comme pognés avec le poids existentiel de ne pas mourir, tu sais, dans le fond. Puis, il y a ça un peu dans Eternals, mais, tu sais, j'ai quand même l'impression, c'est ça, comme le personnage de Gemma Chan est prof, genre, dans une université.
Ouais, prof d'université scientifique, archéologique, musée. C'est une bonne job de personnage de comic book.
Ouais.
De parce que tu peux tout le temps parler de des affaires thématiques qui ont rapport à ton aventure.
Mais tu sais, ils ont des jobs, ils existent dans le monde, mais ils sont comme... Tu sais, je les sens vides un peu comme personnages. Tu sais, considérant qu'ils portent littéralement le poids du monde sur eux, là. Tu sais, le plus proche qu'il y a d'avoir un genre de conflit, tu sais, c'est Sprite.
Ouais, ouais.
Qui est comme... Elle a une allure d'enfant, mais tu sais, elle a 7000 ans. Fait qu'elle peut pas grandir, elle peut pas rien faire, puis elle peut pas, tu sais... Ben, elle peut même pas se tenir avec ses amis réellement parce que, tu sais, comme, mettons...
Elle peut pas aller dans un bar avec ses amis, ça. Là.
Elle peut rien faire, mais elle peut shape-shifter, elle le fait une fois dans le film.
Ben, tu sais, elle peut envoyer des illusions,
ouais.
Mais ça peut pas aller plus loin, là. Comme, justement, une des premières fois qu'on la voit dans le film, c'est que, tu sais, elle parle avec un doute, le doute dans le bar essaie de lui caresser la main, mais il passe à travers l'illusion.
Exact.
Pis...
Fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu intéressant, mais en même temps... Je suis comme, ça fait 7000 ans que c'est ton problème. Tu sais, sûrement qu'il doit, tu dois avoir trouvé une solution autre que encore être frustré. Tu sais, il y a quelque chose. Puis je veux pas démolir la logique du film. Là, tu sais, à la base, on s'en calisse. Moi, je crois à ce que le film me dit. Tu sais, mais je sens pas les personnages habités par toute cette
ouais, tu sais, il y aurait.
Responsabilité.
Il y aurait eu ces problèmes-là. Mettons, quand ça fait 75 ans qu'ils vivent sur Terre et que ça change pas, mais là, ça fait 7000 ans, fait que t'es comme... Ouais, OK.
C'est comme, si vous êtes un peu jambon, là, si vous avez pas trouvé, tu sais, je veux dire, moi, des fois, j'arrive pas parce que, tu sais, je vais mourir un jour puis il faut que je mange toutes ces affaires-là, qu'eux autres, ils ont pas ce problème. Ben, il faut qu'ils mangent, j'imagine.
On dirait. Ben, leur invulnérabilité puis leur cosmiquitude est un peu floue, on sait pas exactement.
Tu sais, puis c'est ça, ils sont immortels, mais ils sont très faciles à tuer aussi. Fait que, ils sont pas forts, nécessairement, tu sais, ils sont pas invincibles, ils sont juste immortels. Fait que c'est ça, fait que tu sais, je trouve que c'est vraiment long, le film dure 2h40, tu sais.
Oui, oui, oui.
Puis, à un moment donné, c'est juste comme un va-et-vient constant des personnes à un endroit qui disent quelque chose, des personnes à un autre endroit qui disent une autre affaire, on explique tel shit, tel ça. Puis ça, c'est vraiment, tu sais... Dans un sens, c'est sûr que je préfère ça à des bébites de CGI qui se battent pendant 2h40. Ceci dit, l'effet devient le même. Tu sais, c'est rébarbatif, puis c'est comme... Je suis devenu un peu comme engourdi là, du film. Là, tu sais, puis tu sais, il y a des affaires... Comme tu dis, c'est beau là, quand même. Tu sais, c'est un peu plus soigné au niveau visuel, même si tu sais, je suis pas particulièrement fan de tu sais, leurs costumes puis les genres de petites gogos dorés qui sortent de leurs mains puis tout ça, tu sais, le super naturel fait encore surnaturel plutôt, fait encore cheap, je trouve, tu sais, ça a quand même l'air de des armures en plastique puis de...
Ouais.
Mais c'est que ça, c'est comme dur à éviter parce que, tu sais, l'armure de Batman dans Batman Returns est cool, mais il est pas capable de bouger quand il est dedans, fait que, tu sais, il faut trouver à un moment donné un juste milieu, là.
Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est ouais, ça, les costumes étaient un peu ordinaires, mais il y a comme un... Tu sais, justement, les effets, parce que, encore là, l'appel de Jack Kirby, c'est comment il dessine ces affaires-là, en genre de stylisation cosmique, inca, géométrique. Puis ils ont utilisé beaucoup de ces genres de visuels-là dans Guardians of the Galaxy, puis dans Thor Ragnarok.
Puis dans Doctor Strange.
Dans Doctor Strange aussi. Fait qu'on dirait que ça, c'est comme un peu brûlé.
Ouais.
Puis... leurs effets de la face, c'est très pub de parfum.
Ouais, ouais, ouais.
C'est très, on veut créer un effet spécial fancy,
comme classique. Un peu Ogilvy's, genre.
Ouais, c'est ça. Puis c'est pas une mauvaise idée, mais disons que visuellement ça reste, ça perd de sa richesse rapidement. Ouais. Mais comme tu disais, puis ouais, mais visuellement c'est cool, il y a moins comme mettons les films des frères Rousseau, ben là, c'est gris longtemps, puis c'est industriel, puis c'est du ciment, puis le ciel, il est blanc, tout ça. Tandis que là-dedans, tu sais, t'as des vrais beaux ciels bleus, t'as une hutte il y a 2500 ans avec de la lumière à travers la fenêtre. Tu sais, il y a des beaux paysages, il y a des belles affaires. Ça, c'est une affaire que j'espère que les autres films peuvent avoir plus un moment donné. Tu sais, c'est plus riche. Mais c'est ça, c'est du beau monde posé, dans des environnements comme ça. Puis c'est drôle parce que là, on enregistre ça, puis après, on va enregistrer un autre épisode dans lequel on va parler de Dune et de French Dispatch.
Les gens vont l'avoir entendu.
Oui, déjà, les gens vont déjà l'avoir entendu. Puis ça, c'est des affaires qu'on trouve dans ces films-là aussi, mais qui sont mieux comme amenées.
Il y a une séquence, je viens de passer, une séquence que je me souviens pas exactement, je me souviens pas où c'est dans le film, mais où il y a beaucoup de voice-over. Un des méga-dieux, là,
Les Celestials
racontent une affaire. Puis j'avais l'impression de regarder un film au musée. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce, là, c'est comme, il y a 7 millions d'années, il y avait des poissons qui sont devenus... Tu sais, ça, c'est là que j'ai failli m'endormir. J'étais comme, Chris, que c'est plate. Chris, d'esthétique éducationnelle. Tu sais, fait que là, c'est ça que je trouvais, tu sais, c'est un peu... C'est trop posé, peut-être même, je dirais, un peu pour ce que c'est, tu sais. Puis la fonction que ça a dans l'univers de Marvel, parce que, tu sais, il y a très peu de connexion entre ça puis les autres films.
Ouais.
Ils existent dans le même univers, on les entend parler de Captain... Ben ça, on le voit dans le trailer, d'ailleurs. Ouais. On les entend parler de Captain America, on les entend parler de Doctor Strange aussi, à un moment donné, tu sais. Fait que, tu sais, ça existe au moins dans un monde où ce que les super-héros existent, puis tout le monde sait, le sait, là, tu sais, contrairement à, genre, mettons, un film de zombie, c'est toujours la première fois que quelqu'un entend parler d'un zombie dans chaque film de zombie. Ce qui est intéressant, mais je le sens pas bien encastré dans le dans l'univers non plus, tu sais.
Non, c'est en effet, moi, une affaire qui m'a vraiment marqué, c'est que Circe, une relation avec Dane Whitman, qui est un personnage de Marvel Comics aussi, qui est joué par Kit Harington, aussi de Game of Thrones. Et ils ont une discussion ensemble, une fois qu'elle y a révélé que c'est une Eternal. Puis là, ils ont une discussion, ils parlent, ils posent une question sur « Mais vous étiez où, mettons, pendant quand Thanos a attaqué?
Ouais, » ouais.
Et elle lui répond « Ah, ben, tu sais, on a comme pas le droit. Les Celestials nous interdisent d'agir durant ça. » C'est comme « OK, c'est bon. » Mais durant cette scène-là a comme quatre plans. Le premier plan, c'est que tu vois de loin les deux en silhouette devant la tête d'un Androma, puis là, ils parlent. Puis les autres plans, c'est t'as Kit Harington qui est à côté d'elle, qui parle comme « Mais là, tu sais, t'es-tu comme humaine? Veux-tu avoir une relation avec moi? » Blablabla. Mm-hmm. Il parle. Il va plus proche de la fenêtre. Là, il commence à y parler de Thanos. Puis là, elle répond. Puis là, après, il revient proche d'elle. Puis là, il recommence à y parler. « Mais là, tu veux-tu être humaine? » Puis ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ah, la scène est tournée de façon où est-ce que si tu voulais enlever les affaires de Thanos, il n'y aurait aucun changement à la scène. » Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être toutes les scènes du film, ils ont un morceau de même où il y a comme référence à l'univers de Marvel. Mais on va l'enlever, celle-là. Pas nécessaire.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est ça que je trouve cool avec les univers partagés, c'est que des fois, il y a un moment qui peut parler davantage. Tu sais, comme, mettons, Brian Tyree Henry, de toute façon, c'est comme le mécanicien de la gang, tu sais. Si on l'avait vu dans les flashbacks historiques, voir Iron Man agir, puis voir que, l'armure existe, puis que là, ça le fait prendre une décision au sujet de sa vie, je serais comme « Ah, OK, cool. Là, ça a une raison d'être dans le même monde. » Mais là, il n'y a pas vraiment ça. Fait que c'est pas grave si c'est pas connecté ou si... c'est bien qu'il n'y ait pas de connexion crowbar à l'univers de Marvel, mais je suis comme « Ah, ben, ça pourrait pas être dedans aussi. »
Ouais,
là.
C'est ça. T'sais, puis je pense que il y a aussi, avec le personnage de Brian Tyree Henry aussi, qui c'est comme quand ils vont remettre l'équipe ensemble, là, lui, c'est comme le Hawkeye des Eternals, parce que il y a comme une famille, puis il est comme « Ah, oh, j'avais abandonné la vie, puis tout ça. » Mais ça fait tellement de merde qu'on se fait pitcher par la tête pendant une heure et demie avant qu'on le revoie faire ça, que t'es comme « Ah, ben oui, OK, lui aussi, il a une histoire, tu sais. » Je pense que son histoire est pas, puis moi, je l'aime beaucoup, cet acteur-là, Brian Tyree Henry, je trouve qu'il est comme... parce qu'il y a dans Atlanta, là, l'émission de Donald Glover, il a pas l'air de jouer. Quand je regarde Atlanta, je pense vraiment qu'il est Paperboy, tu sais. Puis je trouve qu'il y avait matériel à faire des choses intéressantes là-dedans. Mais malheureusement, il est pogné dans un genre de carcan de tout le monde a son petit bout d'exposition, puis on continue parce que là, à un moment donné, tu sais, faut remettre l'équipe ensemble, puis il y a vraiment beaucoup de monde. T'sais, à un moment donné, il y en a un qui s'appelle Druig.
Druig, oui.
Qui est joué par Barry Keoghan, qui était dans The Killing of a Sacred Deer, qui mange du spaghetti de façon inquiétante dans ça. Puis lui, il vit comme en Amazonie avec des genres de tribus, là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est comme, je sais pas expliquer qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il a choisi ça, tu sais, pour...
Il y a comme... essentiellement un genre de culte, mais pas vraiment.
C'est ça, puis c'est comme pas full expliqué, puis tu sais... Puis là, je suis comme, à toutes les fois, j'étais comme, hey, ça, c'est comme intéressant, j'espère qu'on va en parler. Non, non, faut aller, faut qu'on soit tous debout dans un champ en train de s'expliquer des affaires pendant qu'on ça parle dans le ciel, tu sais. J'en conviens que c'est super complexe comme univers, tu sais, comme... Pas complexe, ça veut pas dire bon nécessairement, là, juste il y a beaucoup, beaucoup de morceaux. C'est vraiment difficile à tout faire ensemble. C'est comme... C'est un bon essai, je pense. Là, parce que, tu sais, mais c'est vraiment chaotique. Puis je trouve que c'est... Tu sais, ça me perdait constamment. Là. J'étais pas constamment en train de faire... Oh, c'est qui, lui, déjà? Tu sais, à un moment donné, Kumail disparaît pour une longue partie puis je me rappelais plus. Il est-tu mort? Comme, j'ai-tu comme mal interprété la dernière fois qu'on l'a vu, puis il est
ben,
mort.
Les autres Eternals qu'on voyait pas étaient morts aussi. Fait qu'à un moment donné, comme ton cerveau fait comme d'accord, Kumail est-il mort?
C'est ça.
Va-t-il revenir à un moment triomphant dans la bataille ou est-il mort?
Fait que c'est ça, tu sais. Mais c'est compliqué, là. Il se passe beaucoup d'affaires dans ce film-là quand même. T'sais, fait que genre, je pense, comme je te dis, c'est pas de la faute de Chloé Zhao. Je pense que Chloé Zhao fait la meilleure job qu'il a peut avec un scénario, même pas un scénario, juste une histoire à raconter puis un IP extrêmement difficile à adapter.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, parce que justement, si je pense, tu sais, la version que tu dis comme opératique, où est-ce que chaque personnage devient essentiellement un icône ou un symbole, ben ça serait, c'est weird au cinéma, tu sais, ça fit pas du tout dans l'univers de Marvel. Dans l'univers de Marvel, tout le monde a ses beats, puis tout le monde a sa structure, puis tu sais, c'est ça, puis il faut que tu établisses des choses si tu veux les réutiliser par après.
Mm-hmm.
Tandis que, tu sais, la version, ça arriverait jamais, mais maintenant, la version de Tarsem de Eternals, tu sais,
ouais,
qui est juste comme une affaire ultra stylisée, un peu, j'ai écouté The Cell l'autre fois, de Tarsem, puis... C'est dans ça, ce qui est weird, puis ce qui est fucké visuellement, tu sais, puis qui est comme un peu abstrait, vient beaucoup patcher les trous des affaires qui sont un peu cannées, tu sais, pas tant intéressantes ou un peu, tu sais, on a déjà vu ça 100 000 fois. Puis je pense que, tu sais, sans rien enlever à ce que Chloé Zhao a fait, comme je dis, je pense que c'est bien fait, ça aurait besoin d'une plus grande souplesse au niveau de ce qu'on prend puis ce qu'on laisse dans le matériel de source. T'sais, parce que c'est un peu ça aussi, Doctor Strange. T'sais, Doctor Strange, c'est pas mal moins compliqué, pas mal moins de personnages. Fait que, tu sais, ils peuvent peser sa source de tout ce qui est psychédélique puis qui est weird, là, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que, puis il va y avoir le prochain avec que c'est réalisé par Sam Raimi. Ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Même si, j'ai comme, tu sais, si Chloé Zhao a fait un des Marvel que j'ai le moins aimé, ça va pas bien, là.
Ouais, ben...
C'est une pente descendante, ça, là, je pense.
Ouais, c'est ça qui est vraiment particulier, c'est que, justement, moi, je te dirais aussi que c'est un des films de Marvel que j'aime le moins. Mais c'est ça, c'est que c'est pas mal fait, c'est que j'ai trouvé ça plate, mais... Tu sais, c'est... En fait, celui-là que j'aime le moins, c'est Thor Ragnarok. Mais bon, ça, c'est...
c'est Thor 2. Thor 2 puis Captain America 1. C'est les deux que j'ai
juste... Oui, Captain America 1, c'est un de mes préférés. Là. Mais c'est... Une affaire qu'on a parlé avant d'enregistrer, c'est que c'est ça. On a souvent parlé de que Marvel Studios, c'est une machine à saucisses.
Mm-hmm.
Mais là, je ressentais pas la machine à saucisses.
Mm-hmm.
Les scènes d'action sont pour la plupart assez correctes, lisibles. Au troisième acte, il y a de la pétarade, mais elle est assez différente que... Tu sais, ça reste... C'est juste des êtres humains avec des pouvoirs qui se battent. C'est pas comme contre des bébites. Mm-hmm. Fait que c'est plus la forme, c'est plus lisible.
C'est contre des bébites, là, les bébites...
Ah ouais, ben les bébites arrière sont assez grosses, puis ils se battent quasiment juste au milieu contre eux autres. Mm-hmm. Ils font comme disparaître les Deviants.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, il n'y a pas d'affaires sitcomées forcées. Ils n'ont pas crowbarré, mettons, Shield pour t'expliquer avec un agent pour t'expliquer des affaires. Il n'y a pas toutes ces patentes-là autour.
Ben, y a une confiance, certainement. Je me sentais moins pris par la main que par d'autres films. On va parler de Dune, vous allez entendre l'épisode sur Dune. Dune te tient pas par la main, pas tout, veut rien savoir, s'en calisse. Voici le film. Si tu comprends pas, je m'en calisse. Fait que, il y a un peu de ça, effectivement, dans Eternals, mais en même temps, c'est tellement broche à foin qu'est-ce que ça essaie de raconter. Il y a tellement trop d'éléments que, sans me faire tenir la main par la saucisse Marvel, donc moi et une saucisse...
qui se promène.
je pense qu'il y a un encadrement manquant un peu. Là, c'est comme on disait avant, quand on parlait du métaphore de saucisse, tu sais, le casing de la saucisse n'est pas là. Mm-hmm. Fait que c'est juste de la viande de saucisse. C'est pas... On peut pas vraiment appeler ça de la saucisse. T'sais. Mais c'est quand même... Tu sais, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque structuré, peut-être même de façon abstraite au film. Tu sais, qu'il y a une affaire qu'on pourra... que je peux pas peut-être expliquer, mais que ça ne fonctionne pas.
Non, c'est ça. Fait que c'est... Je pense que c'est ça qu'on... pas mal ça qu'on a à dire au sujet d'Eternals. Tu sais... Allez le voir si vous voulez, c'est le temps mieux que notre opinion que de vous faire votre propre opinion, mais mettons que vous aimez les films de Marvel un peu comme une série télé, puis vous aimez ça avoir le prochain épisode, des affaires comme ça. Il y a deux scènes dans le générique qui promettent d'autres affaires, parce que c'est souvent les scènes dans les génériques sont souvent comme une affaire qui a rapport au film, puis des fois une affaire qui a rapport plus à l'univers at large. Mm-hmm. Dans celle-là, on a une affaire qui aurait rapport à un Eternals 2, si jamais ça arrive. Un autre personnage les rejoint qui a rapport au Eternals. Et puis on a aussi comme un spin-off potentiel d'un autre héros qu'on voit. Mm-hmm. Mais sinon, tu sais... Votre aspect, je veux check-in avec l'univers de Marvel, voir s'il y a d'autres affaires que j'aime qui vont être là. D'autres personnages qui vont faire des caméos, des affaires comme ça. Ça arrive pas. Il y a pas ça là-dedans. On se présente des nouveaux personnages, puis c'est ça qui va arriver si vous les aimez ou non. Sinon, encore là, visuellement, côté effets spéciaux, des affaires vraiment cool. Une affaire que j'ai vraiment aimée, mais ça c'est pour moi-même, ça c'est ma propre lubie, c'est que Ikaris... un power set très Superman-esque, mais j'ai vraiment aimé ça de comment sa façon de voler est montrée, que on reprend pas encore des vieilles retailles de ce que les Wachowski ont fait avec Neo qui vole dans The Matrix. Mm-hmm. Tu sais, là, la façon que Ikaris volait, tu vois souvent qu'il y a vraiment un acteur qui a été mis sur des câbles puis qui fait juste comme. Tu sais, qu'il y a un être humain qui quitte le sol. Mm-hmm. Pour le vrai, que ça, je trouve, c'est un effet spécial qui est vraiment cool. Puis de la façon qu'il vole, tu sais, des fois, il s'en va comme une torpille, il plonge vers le sol du haut des cieux, puis il zigzague un peu dans le ciel, puis la caméra le suit. Ça, j'ai trouvé que c'est une façon vraiment cool de filmer des effets spéciaux comme de pouvoir comme ça. Puis, mais ça, c'est vraiment quand t'es une personne avec le cerveau brisé comme moi, qui aime ça regarder. Les différentes technologies de simuler le vol dans les médias modernes. Fait que c'est ça, c'est comme je l'ai mis 2,5 étoiles sur Letterboxd, puis je pense que c'est à cause que c'est visuellement beau, puis que c'est ça, c'est pas... ça venait pas me gosser de la façon que les autres trucs de Marvel que j'aime moins me gossent. C'était juste plate, mais bien correct, là, tu sais, dans le fond. Là.
Ouais.
Alors, là-dessus... Avec ça. Alors, ben oui, alors là-dessus, on va terminer cet épisode. Alex, on te trouve où sur Internet?
Oui, cultmontreal.com sur Twitter. Je suis Alex Rose, deux petites barres à la fin. Deux petites barres en dessous à la fin, plutôt. Puis sur Instagram et Letterboxd, je suis Why Does It Exist. Et maintenant, au moment où vous entendez ça... Le livre 11 brefs essais sur la beauté est en magasin avec un essai écrit par moi à l'intérieur de ce livre.
Excellent. Pour ma part, moi, c'est Yannick Belzil sur Letterboxd, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter où je mets des dessins, je parle de pop culture. Vous pouvez me commander des illustrations, plein de choses comme ça. Je travaille pour plein de places, dont Tribute Games qui font des bons jeux vidéo comme Steel Assault qui est sorti récemment sur la Switch et sur Steam PC. Et en 2022, qui vont faire Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. En fait, ils l'ont fait, mais il va sortir en 2022. Alors, allez, attendez-vous d'acheter ça dans ce temps-là. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'oubliez pas d'aller voir des vues.
Yeah.
Les voyeurs.